J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour à tous et bienvenue sur Aléa. C'est Régis qui vous parle et aujourd'hui nous allons terminer notre brève histoire des échecs, commencée il y a 2 semaines, par ce dernier épisode qui verra, en 97, la victoire définitive de la machine sur l'homme. Mais ne brûlons pas les étapes et revenons à l'endroit où nous avions laissé notre histoire, c'est-à-dire dans les années 70. C'est à partir de ces années-là où commencent à apparaître les premières compétitions d'échecs entre ordinateurs. La médiatisation de ces rencontres auprès du grand public va renforcer l'envie des concepteurs informatiques de développer des programmes plus puissants. Mais cette quête passera moins, comme c'était le cas dans les décennies précédentes, par l'amélioration des capacités des programmes à sélectionner les bons coups, et plus par une recherche brute et matérielle qui consiste à développer des machines capables d'avoir des vitesses de calcul toujours plus importantes. Cette tendance va s'accentuer grâce aux améliorations constantes des technologies, avec des puces plus puissantes pour les générateurs de coups, et avec l'augmentation de la capacité de mémoire ou la mise en place de systèmes parallèles pour le calcul. Toutes ces nouvelles technologies permettront d'alimenter la croyance que les programmes sont capables de faire preuve d'intelligence, d'une intelligence comparable à celle de l'humain, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une puissance brute de calcul par opposition à la manière dont la cognition humaine semble fonctionner, c'est-à-dire par la sélection. Le suivi médiatique des championnats d'échecs va s'amplifier à mesure que les programmes augmentent leur performance. De plus en plus de personnes, professionnelles comme amateurs, vont s'intéresser aux dernières avancées sans pour autant vraiment comprendre comment elles ont été obtenues. Cette nouvelle collectivité de programmeurs se compose essentiellement de joueurs professionnels et d'hommes d'affaires qui commercialisent les programmes. Et aucun d'eux n'est intéressé pour savoir comment les résultats obtenus par les machines pourraient servir à des améliorations futures pour les intelligences artificielles. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des machines capables de jouer aux échecs. Une autre évolution à noter est l'arrivée progressive des programmes dans les tournois entre joueurs humains. Dans les années 60, il est encore difficile d'imaginer un match entre un ordinateur et un joueur de niveau international, parce que les programmes étaient encore trop mauvais. Mais à partir des années 70, des compétitions qui opposent l'ordinateur à l'homme vont commencer à apparaître. Pourtant, à cette époque, peu de personnes prennent au sérieux l'arrivée des programmes dans les tournois. Ils sont d'abord considérés comme des simples jouets, ou des curiosités, parfois même gênants pour les participants à cause du bruit que font les terminaux informatiques. Mais à la fin des années 70, quand les programmes commencent à marquer des points face à des adversaires humains, les opinions se font plus virulentes. On commence à redouter les machines et le mythe de la créature artificielle, c'est-à-dire du dépassement de l'homme par la machine dans le domaine de la pensée rationnelle, réapparaît. En 1983, le programme Bell est le premier à atteindre le niveau d'un maître américain en jouant dans plusieurs tournois. La Fédération d'échecs des États-Unis commence alors à établir des règles pour encadrer la participation des ordinateurs dans les tournois humains. La même année, un groupe de joueurs américains va créer le mouvement What's It, qui est l'anagramme de We Oppose Computers in Tournaments, dont l'objectif est de protéger le droit de jouer contre un adversaire humain. Cette anecdote met en avant l'appréhension qui s'installe progressivement face à l'amélioration de la machine. Louis Coufignal, mathématicien et cybernétique français, a questionné à cette époque la peur du dépassement de l'homme par la machine dans le domaine de la logique et considère, je le cite, qu'il s'agit là d'un dépassement de même nature que le dépassement de l'homme par des outils. C'est l'homme, dans les deux cas, qui met dans la machine les règles de son fonctionnement. Il reste maître de la machine. Selon lui, la peur des intelligences artificielles est infondée. Les machines construisent des raisonnements différents des humains et il ne sert à rien de se comparer à elles sur ce point-là, mais plutôt de savoir comment bien construire ces machines pour répondre à des problèmes qui nous concernent. Les années 90 vont changer la donne du combat de l'homme contre la machine, puisqu'elles verront la victoire de Deep Blue sur Garry Kasparov. Cette dernière partie de l'histoire commence en 1989, lorsque l'entreprise IBM récupère une équipe d'étudiants qui développe le programme Deep South, en leur offrant un soutien quasi illimité pour mettre au point un programme capable de battre Kasparov d'ici 92. Tel est l'objectif qui en tout cas pour IBM est un enjeu économique et publicitaire. Le premier match se déroule entre le 10 et le 17 février 1996 à Philadelphie. La machine derrière Deep Blue permet une analyse théorique maximale de 300 millions de coups par seconde. Elle est alors considérée par l'un des concepteurs comme la machine la plus puissante jamais construite. Pourtant, l'ambiance est plutôt à l'anxiété du côté de l'équipe IBM, Deep Blue n'ayant pas eu le temps de jouer une seule partie complète avant de se confronter au champion du monde russe. À l'issue de la première partie, Gasparov abandonne face au 37e coup de Deep Blue, à qui il restait près d'une heure pour jouer ses trois prochains coups, contre 5 minutes pour Kasparov. Ce fut la première victoire d'un ordinateur sur un champion du monde d'échecs. De telles considérations, relayées par tous les médias qui couvraient l'événement, alimentent évidemment les croyances autour d'une machine qui résonne intelligemment et de façon autonome. Dès la deuxième partie, Deep Blue abandonne au bout de 73 échanges. Alors que la troisième et la quatrième partie s'achèvent sur un nul, les cinquième et dernière partie sont remportées haut la main par Kasparov. La revanche se déroule plus d'un an après la première rencontre, en 1997 à New York, et est encore plus médiatisé. Cette fois-ci, c'est la machine qui remportera définitivement le match. Mais l'histoire de la programmation du jeu d'échecs ne s'arrête pas là. D'autres programmes vont voir le jour et d'autres rencontres contre des joueurs professionnels seront organisées. Les algorithmes mis en œuvre ont été considérablement améliorés grâce à l'implémentation de nouvelles méthodes, comme l'apprentissage qui s'appuie sur des réseaux de neurones et qui permettent à des machines d'apprendre à jouer aux échecs en 72 heures et de battre les plus grands champions. Mais dans toute cette histoire, qui remonte au début des années 50, plusieurs scientifiques ont été motivés par l'illusion de pouvoir créer de l'intelligence en réussissant à développer un programme champion du monde d'échecs. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que toute opération mentale pouvait être mécanisée. Et même si dès le milieu des années 50, on comprend qu'une machine peut manipuler des nombres et des symboles, et cette manipulation peut potentiellement être l'essence même de la pensée humaine, la force brute de calcul reste la composante primordiale à la réussite d'un programme d'échecs performant. Pour nombre de personnes, ce fut autant une révélation qu'une déception de réaliser que la beauté dans un enchaînement tactique de coups pouvait se réduire à une recherche efficace et rapide dans l'arbre des possibles, c'est-à-dire à un fonctionnement mécanique qui ne ressemble pas à la façon de procéder d'un esprit humain. Au final, tout comme les avions qui volent sans pour autant battre des ailes, les ordinateurs peuvent gagner aux échecs sans pour autant imiter le processus de la pensée humaine.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !